Mais de quelle manière? Et elle va donner deux exemples, des changements de nom, d'abord Jacob et ensuite, Abraham. Vous voyez comment nous sommes dans le sujet, dans une Gemara, c'est clair? Bon. Alors, on continue. Nous sommes sur la dernière ligne du premier paragraphe. Kayotsebo, exemple du même problème. Ata Omer, tu lis dans un verset, je vous donnais tout à l'heure toutes ces références, Loïkaveshimcha od Yaakov, ton nom ne sera plus nommé Jacob, kiim Israël yé Shemecha. Mais Israël sera ton nom. La Gemara dit, suivez, Lo Sheaker Yaakov imkomo. Ça ne veut pas dire que le nom de Jacob ne sera plus employé, sera annulé. Et là, Israël Ikar, be Yaakov tafello. Mais Israël sera l'essentiel et Jacob sera contingent. Vechenu Omer. Et de même, on enseigne sur un verset d'Isaïe. Altiskeru Rishonot. Ne vous souvenez plus des premières choses. Vekadmoniot altitbonenu. Et les choses antérieures aux premières, n'y réfléchissez plus. Et que veut dire ce verset, dit la Gemara, suivez. Altiskeru Rishonot. Ne vous rappelez plus, ne vous souvenez plus des premières choses. Ze Yetziat Mitzrayim. Il s'agit de la sortie d'Égypte. Non, Slicha. Il s'agit de Shemud Malchuyot, de la fin des empires. Et la Gemara va nous mener très loin, elle nous dit, et ça va aller encore plus loin. Il arrivera un temps où on vous dira, comme a dit Isaïe, les premières choses que vous commémorez maintenant, la sortie de Rome, enfin de l'Europe, de la civilisation occidentale, ça, déjà, ne vous rappelez plus. Et des choses antérieures, n'ayez plus souvenance, si j'ose dire, « Vekadmoné al-Sadmonenu, Zoyetziat Mitzrayim ». C'est-à-dire qu'il arrivera un temps où ce rythme que l'on a vu, jusque-là, la sortie d'Égypte, c'était l'essentiel. Mais il va se produire un événement qui fera que le souvenir commémoré, c'est la catastrophe dernière, la délivrance de la dernière catastrophe, et l'Égypte sera ancien. Mais il arrivera encore un temps futur où cette nouvelle chose commémorée, ça sera un souvenir ancien, et la sortie d'Égypte a plus forte raison. Ça renvoie la préhistoire dans une préhistoire plus préhistoire. Accrochez-vous bien, n'ayez pas peur. Bon, parce qu'on continue. La suite du verset d'Ésaïe, « Hineni osé chadasha »« Voici que je fais, j'ajoute déjà, pour rendre compte de la problématique du prophète, « Chadasha » une chose nouvelle, « Atatitzmar » déjà, maintenant, elle germe, « Tane Rabbi Yosef » et de quoi il parle Ésaïe ?« Rabbi Yosef dit, « Milchamed Gog et Magog » la guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire, voilà, quel est le déroulement du rite. Il me semble, dans ma mémoire, qu'on a déjà lu ce texte. Je ne sais pas, peu importe. Peut-être on en a parlé. Sortie d'Égypte. Et après, en fin de compte, délivrance des empires, Shirvud Malchuyot, retenez bien cette expression. Et après, il y aura encore un événement, catastrophe dont on sera délivré, la guerre de Gog et Magog, et c'est annoncé par Isaïe, dit la Gemara. Je vous signale, je ne sais plus qui a cité cela, je ne sais pas si c'est hier soir ou avant-hier soir, M. Rosner ou M. Bernheim, que la gamatria de Gog et Magog, ça fait 70. Okay, j'ouvre une petite parenthèse. On est habitué à une pseudo-vérité. Quand on dit la guerre de Gog et Magog, dans l'imagerie folklorique, on voit la guerre d'un Gog contre Magog. De deux géants, hein, qui se rappelaient Gog et l'autre Magog. C'est pas ça. Magog, c'est le pays, et Gog, c'est le nom de son roi. C'est la guerre de Gog et Magog contre Israël. Dans Ézéchiel, surtout le chapitre 30. Et il y a une controverse chez les maîtres de la tradition contemporaine. Est-ce que cette guerre de Gog et Magog est déjà passée ou est-ce que cette guerre de Gog et Magog est encore à venir? C'est-à-dire la coalition du monde contre Israël. J'ai tendance à préférer l'opinion de ceux qui disent « elle est déjà passée ». Vous avez compris pourquoi? Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui l'attendent encore, pieusement. Et pour ceux qui enseignent cela, elle s'est passée entre 1917 et la guerre de Kippour. Que ça a été épongé à travers tous ces événements, depuis 1917 jusqu'à la guerre de Kippour, où le monde entier s'est coalisé contre Israël. Avec, il me semble, ça c'est moi qui l'ajoute, comme point si, comme on dit, comme sommet, le jour où l'ONU a déclaré que le sionisme était un racisme, et où il y a eu, vérifié dans les archives de l'ONU, 70 votes contre Israël. 70. Dis-nous, c'est une coïncidence. Donc. Et alors, ça nous rassure. Donc, grâce à Dieu, ils étaient 70. Et alors, alors, la Gemara continue. Machal les mains d'Avardomé. À quoi ressemble on va donner un apologue. Les Adam, Shayam Aler Baderer. Un homme qui marchait en chemin. Ou par Pagarbozev, l'a rencontré un loup. Benitzal Mimenu, il a été sauvé de lui. Veyam Saper Veoler, Maasezev, alors il racontait l'histoire du loup. Ça, c'est l'Égypte. C'est clair? Donc, on continue. Pagarboari, il a rencontré un lion. Ça doit être l'Empire britannique. Benitzal Mimenu, il a été sauvé de lui. Veyam Saper Veoler, Maasehari. Alors il racontait l'histoire du lion. Le loup, c'était. Oublié. Pagarbo Nachash, il rencontre un serpent, ça doit être le serpent de l'inflation, ça. Benitzal Mimenu, il a été sauvé de lui. Shachar Maase Shneem, Veya Mesaper Veoler, Maase Nachash. Il a oublié les histoires du loup et du lion, et il racontait l'histoire du serpent. Afkar Israël, de même, ainsi Israël, Tsarot Aharonot, les malheurs derniers, mais chaque chôte et tarichonote sont oubliés les malheurs premiers. Bon, voilà ce que nous avons traversé. Alors, il semble y avoir une contradiction entre le point de chute de l'enseignement et le point de départ. Le point de départ dit « il ne faut pas oublier », et le point de chute dit « les derniers font oublier les premiers ». Vous suivez le raisonnement? Qui peut expliquer la contradiction? Enfin, la résoudre. Il n'y a pas de contradiction. Mais c'est apparent. Vous avez compris la question? On nous dit... C'est la réponse des Hachamim à Benzoma. On n'oubliera pas la sortie d'Égypte. Seulement, on va avoir à se souvenir de choses plus importantes pour nous. C'est clair? Et puis à la fin, il dit, ben voilà, c'est le cas d'Israël. Il y a tellement de péripéties que les dernières épreuves font oublier mais chaque kehot. Les épreuves, ça semble contradictoire. Plus fort.
Le fait qu'on était esclaves et qu'on ait pu être
délivré.
Finalement, ça peut nous accompagner dans l'histoire.
Je sens que je devine que. Mais personne n'a rien entendu. La question est restée question. Je répète la question. À la fin, on dit voilà le plan de l'histoire d'Israël, d'après le programme des commémorations. Les dernières épreuves font oublier les premières épreuves. Alors que la Mishnah avait établi, lorsque on commémorera la sortie de l'oppression des empires, l'impérialisme, la fin de l'impérialisme a commencé en 1917. Je ne sais pas si je reviendrai là-dessus. Okay. Eh bien alors, il ne faut pas oublier la sortie d'Égypte. Même après la guerre de Gog et Magog, lorsque la commémoration de cet événement inouï pour notre histoire, il y a un état juif dans le monde, on n'oubliera pas la sortie d'Égypte non plus. Vous savez que c'est cette année qu'on aurait dû commémorer le 40e anniversaire, mais au lieu d'être une année de fête, ça va être une année de règlement de compte. Et c'est une autre histoire. Et alors, vous ne voyez pas la contradiction? Bon, alors je donne la réponse pour gagner du temps.
Peut-être que la situation n'est pas la même, parce que quand on est sorti d'Égypte, avant de l'homme d'Égypte, on n'était pas un peuple, on n'était que des individus ou comme ça. Tandis qu'en Égypte, on s'est forgé comme peuple et il faut peut-être se souvenir que c'est de là qu'on est devenu un peuple.
Très bien. Alors ça renforce le fait qu'il ne faut pas oublier la sortie d'Égypte parce qu'il y a des caractéristiques particulières de la foi en la Géoula propres à la sortie d'Égypte et qui sont indélébiles. Ça ne résout pas la contradiction apparente de la Gemara. C'est clair? Alors je vous donne la réponse. Qu'est-ce que la Gemara a dit? Tsarot aharonot meshakechot et tarishonot. Les épreuves, les souffrances dernières font oublier les souffrances premières, pas les délivrances. C'est clair? Ça veut dire qu'on oubliera le mal, mais on se rappellera du bien. Regardez, pendant tous ces 2000 ans, je vais reprendre mon atmosphère d'études au Talmud Torah enfant. Eh bien, quand on étudiait Pessah au Talmud Torah, Tout ce que nos maîtres nous décrivaient comme souffrance des Égyptiens en Égypte, ça nous paraissait un peu mythique, on n'arrivait pas à réaliser. Mais le fait de délivrance, ça on réalisait. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? On avait fini par oublier, par ne plus être, sauf les familles Khamim, qui se sont référés, quand les premiers signes de la Shoah contemporaine ont commencé, à citer ces midrashim. Voilà ce que les Égyptiens faisaient aux Hébreux en Égypte, et on prenait ça pour imagination midrashique orientale, okay, jusqu'au moment où on a eu ces comptes rendus, que les Allemands ont fait la même chose. Je vous donne un exemple, un midrash qui raconte que, pendant la construction des pyramides, alors, quand les Égyptiens n'avaient pas assez de briques, ils prenaient les enfants hébreux à la place des briques. Ils disaient, bon, c'est invraisemblable, c'est midrash. Et puis, quand on a appris ce que faisaient les Allemands après, avec le comment ils fabriquaient le savon et tout le reste, mais enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans, je dis, voilà, c'est possible. Les tsarot, on les oublie, mais la geoula, on ne l'oublie pas. J'ai résolu la contradiction. Okay. Donc, ou par exemple, ceux qui ont encore dans leur mémoire traditionnelle juive l'inquisition d'Espagne, on avait beau citer les juifs sur les bûchers, c'était des idées. Okay, des idées affectivement chargées, mais c'était des idées. Quand on a commencé à parler des faux crématoires, on s'est rendu compte que ce n'est pas des idées, que c'est concret. Et ça veut dire les faux crématoires finissent par nous faire oublier les bûchers de l'inquisition. Mais on n'oubliera quand même pas la sortie d'Espagne. La délivrance d'Espagne. Bon, c'est dans cet ordre-là qu'il n'y a pas contradiction. Je veux dire, la Gemara, c'est ce qu'elle veut dire. Alors là, on arrive à notre sujet. Ça va? Ouais. On a eu un petit coup de projecteur sur Jacob Israël qui va être pris. Mais on va commencer par Abraham Abraham. C'est là qu'on se raccorde à notre sujet. Ça va? On va prendre 5 minutes, si vous voulez, et on saute. Et je vous rappelle, dans le schéma général que j'ai donné au début du séminaire, que le nom de ces 4 empires, j'ai apporté la référence du Midrash, mais je vous indique, pour ceux qui en ont la possibilité, d'étudier ce problème dans le premier chapitre du Ner Mitzvah du Maharal, qui cite toutes les sources et en donne une explication synthétique. Quelles sont ces 4 grandes civilisations qui se développe à travers le temps de l'histoire, les 4 empires, et lorsque ce développement est achevé, apparaît le temps messianique, la 5e royauté, qui est la royauté messianique. Bien. Alors, il y a Yetzer Mitzrayim, et ensuite il y a Shirbud Malchuyot. Je vais mettre l'expression au tableau. J'espère que j'arriverai à écrire. Oui. Shirbud, ça veut dire oppression, asservissement, charabed, malchuyot. Malchuyot, les 4 empires. Bon, je crois que le terme contemporain le plus clair pour traduire cette expression, c'est le terme d'impérialisme que j'ai utilisé dans les analyses des conférences générales. C'est-à-dire le fait qu'une nation impose son identité, sa souveraineté aux autres nations. Et alors se constitue un empire. Il y a eu l'empire de Babel. La fin de l'empire de Babel, c'est l'Égypte. Dans le récit biblique, Babel, l'Égypte, c'est contemporain. Dans les Midrashim qui racontent les voyages d'Abraham, il sort de Babel, il va faire un voyage en Égypte. Finalement, il se fixe au milieu en Israël. Un peu pour donner une comparaison, la civilisation contemporaine du 4e empire, c'est la civilisation de Rome. C'est la civilisation européenne qui rassemble, c'est schématique, mais je crois que ça suffit à cadrer le sujet, les sociétés de droit romain qui ont donné leur modèle à l'humanité contemporaine à travers la colonisation. Mais dans n'importe quel pays éloigné d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique ou d'Australie, eh bien, le modèle semble être la société de droit romain, quelle que soit la spécificité de la culture. Et à travers Rome, l'universel humain est relié à Israël, dans la dialectique de tout à l'heure. Et Abraham sort de Babel, mais finalement, pour cette première époque, le peuple d'Israël, sous la direction de Moïse, sort de l'Égypte. Ça veut dire c'est l'achèvement de la sortie de Babel, la sortie d'Égypte. C'est clair ? Le deuxième empire, c'est l'empire perse. La sortie de l'empire perse, c'est au temps de Cyrus. Okay. Et je viens d'entendre que mon ami Gérard Israël vient d'écrire un livre sur Cyrus, que je me propose de lire avec attention dès qu'il sortira. Je ne sais pas s'il est déjà sorti. Et effectivement, c'est très important de voir que la grande dispersion après celle d'Égypte a commencé en Perse et s'achève en Perse. Haman Khomeini. C'est une coïncidence. Je viens de lire dans les journaux israéliens qu'il y a des tractations entre Israël et l'Iran pour que le reste des juifs de Perse puissent sortir d'Iran. Bon, je ne sais pas combien arriveront en Israël. Ça, c'est les voyages de l'agent juif. Donc, et alors, le troisième empire a été la Grèce. Et avec le point final, les Maccabées. Et le quatrième empire, c'est Rome. Et nous sortons de ce quatrième empire. Voilà, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est la contemporanéité entre l'État d'Israël contemporain, qui est le troisième État juif, avec la fin du quatrième empire, qui est Rome. Là encore, il faudrait étudier cela à la loupe. Mais l'événement massif est indéniable. La charnière de l'événement, c'est le temps de la fin de l'impérialisme. Une petite analyse très brève, c'est ceci. Il y a une date qui est frappante pour nous, c'est 1917, qui est simultanément la date de la déclaration Balfour, à mettre en parallèle la déclaration Cyrus et la déclaration Pharaon, feu vert, vous pouvez quitter la galoute, et puis la révolution russe qui met en place l'antagoniste d'Israël et puis le commencement de la décolonisation des grands empires européens. En vérité, l'impérialisme ne prend fin que quand il prend fin sous toutes ses formes. Il ne suffit pas que l'impérialisme politique prenne fin, souveraineté politique, par exemple, je ne sais pas moi, drapeau anglais au Kenya, il n'y a plus de drapeau anglais au Kenya, ou bien drapeau français en Algérie, il n'y a plus de drapeau français en Algérie. Mais tant qu'il y a impérialisme économique, l'impérialisme politique continue sous des formes déguisées. Tant qu'il y a impérialisme culturel, etc. Il y a dans les sociétés européennes, et notamment en France, un effort profond et sincère pour mettre fin à la mentalité impérialiste et retrouver la mentalité universaliste. Je vous le signale en passant. D'Israël, nous percevons cela dans nos rapports avec la culture française à travers l'ambassade ou le consulat de façon très profonde. Quel que soit le régime installé à Paris, qu'il soit de droite ou de gauche, on sent qu'il y a une volonté sincère de décrocher de la mentalité impérialiste, je reprends la formule, pour retrouver la mentalité universaliste. C'est vrai pour beaucoup d'élites des pays européens, y compris l'Amérique d'ailleurs, bien que la civilisation occidentale continue à rester grosso modo impérialiste. Mais il y a une espèce de prise de conscience de notre problème. L'impérialisme a échoué, c'est l'échec de l'universalisme. On recommence à espérer la relation universaliste avec les autres nations. Est-ce que c'est clair ? Alors, il n'y a pas de doute que la fin de l'impérialisme, officiellement, c'est 1917. Et c'est extrêmement frappant. Il faut encore une fois étudier ça à la loupe, mais c'est l'expression employée par notre Gemara. C'est-à-dire que la Haggadah de la fin des temps, la Haggadah des temps messianiques, aura comme gros plan de la commémoration le temps de la sortie du dernier empire, c'est-à-dire l'empire de Rome. J'avais indiqué cela une minute, pour indiquer que pour le premier grand empire, eh bien, c'est la sortie d'Égypte qui est l'achèvement de la sortie de Babel qui commence avec Abraham. C'est clair ? Il y a, me semble, une relation assez analogue entre la situation américaine et la situation européenne qu'il y a eu au temps de la Bible entre la civilisation égyptienne et la civilisation babylonienne. C'est les mêmes conduites, les mêmes comportements sous des symboles différents, mais c'est finalement la même manière d'être homme, à la limite. Est-ce que c'est bien clair ce que j'ai dit là ? Alors, c'était frappant de voir que, selon l'enseignement de cette Sugya, nous vivons donc ce temps de la fin de Shebun Malchuyot avec toutes les restrictions et les nuances et les réticences que j'ai indiquées. C'est en cours. Et la date C'est donc 1917. Elle est éminemment symbolique pour le calendrier juif, bien évidemment. Ken, rapidement.
Vous prenez tous les critères politico-sociaux. 1917 a aussi une autre signification. L'Union soviétique est la première constitution qui dénie absolument dans la constitution la possibilité de l'existence de Dieu. Alors que la révolution française avait reconnu l'immortalité, l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme. Est-ce que ça peut compter? C'est pas un négatif pour moi, mais est-ce que c'est comme critère?
Non, certainement. C'est un critère, il y a un faisceau d'autres critères encore. Nous sommes dans notre histoire d'une charnière. Exactement dans le sens que vous dites, mais malgré tout, ça s'annonce déjà à la Révolution française. C'est la fin de la souveraineté de la conscience chrétienne, donc biblique, dans l'histoire de l'Europe. C'est la première fois que la tendance à l'universalisme se fait sur des bases athées. Ça commence quand même à la Révolution française. Bon, c'est repris par plein de clins d'œil, si j'ose dire. Napoléon restaure, avec tous ses différends avec le pape, il restaure la chrétienté malgré tout comme souveraine. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, bien que la France soit évidemment laïque et républicaine, elle reste chrétienne. On y a pensé par exemple du transfert des cendres de René Cassin au Panthéon. Il y a tout un problème de législation rabbinique, puisqu'il s'agit d'un cimetière non juif. C'est une crypte républicaine, mais il y a une croix dessus. Et bien que ce soit laïque et républicain, c'est catholique. Je vois que, comment dire que, oui. Bon, je referme la non-parenthèse. Et alors, on aborde la suite. Alors, à ce propos, la Gemara dit, c'est là que recommence notre sujet, Abraham ou Abraham. Alors, ça, c'est un verset qui se trouve... qui se trouve dans les chroniques, les Divrei Hayamim, vous le vérifierez dans la Bible complète, livre 1 des chroniques, chapitre 1, verset 27. Vous voyez, trois mots. On rappelle la généalogie de l'humanité, depuis Adam, et puis on arrive au temps d'Abraham. Je vais vous lire la traduction dans la Bible du rabbinat pour montrer encore une fois les difficultés des traductions. Comment on ne peut pas étudier avec les traductions? C'est impossible. Je donne souvent l'image suivante. Pour construire un immeuble, il faut des échafaudages. Mais une fois que l'immeuble est construit, il faut enlever les échafaudages. Mais les traductions, c'est un peu comme les échafaudages, mais elles sont à être enlevées. Et je vais vous lire comment c'est traduit. Pourtant, c'est une Bible respectable, la Bible du rabbinat. Alors c'est dans le livre 1 des chroniques, chapitre 1, verset 17. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Verset 27, Ken. Alors on traduit, Abraham qui est identique à Abraham, enfant d'Abraham, Isaac, Ishmael, etc. Vous voyez, en hébreu, il y a trois mots tout à fait autres. Abraham, ou Abraham? Abraham, c'est lui Abraham. On n'a jamais dit qu'il est identique. C'est lui, mais il n'est pas identique. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon, c'était une petite parenthèse très rapide. Alors voilà, suivez donc sur la Gemara, ça commence au milieu, je vous ai signalé dans certaines feuilles, en le soulignant. Abraham, ou Abraham, Batechila, au début, Naasa Av, il a été fait père, les Aram, à Aram. C'est l'identité Aram, dont je vais recommencer à parler un peu aujourd'hui. Ah, j'ai quand même me lever. Oui, je vais vous donner les explications nécessaires au tableau, après je reviendrai au texte. Voilà le nom de Abraham. Abraham. Son étymologie directe sémantique, c'est Avram, le père élevé. Le mot de Ram, a une très grande importance sémantique pour les traditions antiques de Babel. Vous avez rencontré ça dans vos lectures. Ram. Okay. Abraham. Le principe d'identité qui s'appelle Abraham, le père élevé. Et la Gemara va lire Abraham, Av, les Aram. Le principe d'identité père de Aram. C'est clair? Oui. Et ensuite, nous avons le nom. Je change encore de feuille, c'est pas la peine. Vous arrivez à lire ? Nom de Abraham. Il y a le hé qui s'ajoute. Et Abraham va être lu, comme nous allons lire dans la Gemara, à l'échelle universelle. Il y a un passage à la limite de l'universel, de cette identité Abraham qui redevient hébreu. Elle est hébreu, mais enfouie. C'est clair ? L'identité hébraïque dans l'identité araméenne est occultée, récessive. Elle est enfouie. Une image kabbaliste. Je reprends le parallèle que j'ai indiqué, je vous indique que je suis très conscient que c'est un parallèle agressif, mais il faut bien le comprendre. Ça, nous avons eu cette analyse dans les premiers cours. C'est très parallèle à ce qui se produit aujourd'hui. Les Juifs avaient oublié qu'ils étaient des Hébreux. Mais ils sont des Hébreux. Seulement, l'identité hébraïque dans l'identité juive est enfouie. Est-ce que c'est clair ? De la même manière que l'identité hébraïque chez Abraham, au niveau de l'identité araméenne, était enfouie. Et alors, tout l'effort des engendrements dans l'histoire des patriarches, c'est de réengendrer, de ressusciter cette identité hébraïque. Et j'ajoute, ça nous est pour nous Israéliens très clair aujourd'hui, toutes les convulsions idéologiques, politiques, religieuses, spirituelles, tout ce que vous voudrez, la société israélienne aujourd'hui, c'est les convulsions de cet engendrement de l'identité hébraïque du dedans de l'identité juive. Est-ce que c'est clair ? Bon, vous voyez que nous avons énormément de problèmes. Ces problèmes-là, la Bible les a racontés.
Oui, ici, actuellement, c'est une ressuscitation, une réémergence de l'identité hébraïque. Comment se fait-il alors que ce soit le Mashiach ben Yosef qui soit chargé de ce retour à l'identité hébraïque ?
Très bonne question. Il y a un Midrash qui pose la question, pourquoi Moïse n'a pas été enterré en Israël et Joseph a été enterré en Israël ? La réponse est énorme. Le Midrash dit parce que Joseph a laissé dire de lui qu'il était égyptien. Parce que Moïse, laissez-moi parler sinon je vais m'embrouiller, a laissé dire de lui qu'il était égyptien. Alors il ne sera pas enterré en Eretz Israël. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il n'est pas enterré en Eretz Israël, mais au niveau de ce Midrash. Alors que Joseph a dit qu'il était hébreu, il sera enterré en Eretz Israël. Je me souviens quand j'ai étudié cela avec mon maître, le Rav Kouz, j'avais posé comme question, il expliquait ça comme ça. Il dit, les filles de Jéthro disent à leur père, vous référez au texte, Ken, Joseph, Moïse a sauvé les filles de Jéthro. Une sorte d'exercice de sauveur avant d'être le sauveur de l'humanité. Ça commence par les filles de Jéthro, il les sauve. Et Moshiach, pas Mashiach, mais Moshiach, et elles disent à leur père « Ish mitri itzilanu minaroim » Un homme égyptien nous a sauvés des bergers, mettant en parenthèse des mauvais bergers. Et alors le Rav expliquait comment Moïse, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à la sixième génération, mais c'est les ancêtres immédiats, il laisse dire « Homme égyptien » et pensait qu'il y avait de quoi se tromper, il sortait du palais du Pharaon. Okay, et alors... Alors il dit, c'est très grave, même à ce niveau-là. Vous savez, les défauts sont significatifs dans l'identité la plus fine de vertu. Je me suis bien exprimé, vous avez compris. Et alors j'avais objecté dans l'étude, mais il n'était pas présent quand c'est les filles de Jéthro qui ont fait la gaffe. Alors il réfléchit, et puis voilà la réponse. Il dit, mais quand Dieu lui a dicté la Torah, et qu'il lui a dicté ce verset, un homme égyptien nous a sauvés. Il n'a rien dit. C'est joli. Top. Alors oui, c'est à rattacher à votre question. Okay. Le Mashiach ben Yosef, il est le descendant en profil d'identité, le principe de ce Joseph qui descend en Égypte pour l'aventure égyptienne et qui lui dit à ses frères, il arrivera un jour, Paco, Difko, Letrem, Vahalite, Metrat, Montaï, Misei, Techem. Il arrivera un jour où Dieu vous fracine et vous ramenez mes ossements avec vous. C'est Joseph qui annonce un jour viendra le relais de Judas. Vous vous rappelez de l'analyse, ok ? Et c'est-à-dire Joseph, ce n'est pas un traître à l'identité Israël. C'est un juste d'Israël déguisé en Égyptien pour stratégie de survie, pour donner à manger à toute la terre en ce temps-là. Bon, réfléchissez à toutes ces implications, ok ? Le sacrifice soit non
des Micouli, vous
les prémices, oui.
Les prémices. Faisait une déclaration assez étonnante à ramener à la micro-bédalité.
D'accord.
Est-ce qu'on peut l'interpréter comme le rejet de cette identité?
Non. J'ai pas écouté la phrase. Un rejet de cette identité.
Aramène.
Nahon. Mon père était Aram. Nahon. Ça veut dire, cette conduite de rejet doit être perpétuelle. On n'a jamais fini d'évacuer l'araméen. Okay? Cette ambiguïté, je vais la garder jusqu'à la fin du séminaire. Je vous ai signalé hier, l'araméen nous est très cher. C'est notre deuxième langue sacrée, si j'ose dire. C'est notre langue, c'est le patois familial de la famille des ancêtres. C'est la langue juive par excellence. J'ai parlé du yiddish, c'est bien hier. Le yiddish, c'est pas rien pour les juifs. Mais il y a un yiddish plus, c'est l'araméen. Le yiddish des rabbins, c'est l'araméen. Les rabbins s'écrivent en araméen. Si vous étiez familier avec le monde juif traditionnel, ça vous serait évident. Il y a des prières de familiarité familiale, si j'ose dire, qui ne sont qu'en araméen. Okay. La Gemara va nous dire, pas seulement la Gemara, les anges comprennent l'hébreu. Et quand Israël a à dire des choses à son Dieu et qu'il ne veut pas que les anges comprennent, il dit en araméen. Ouais, ils comprennent pas. Et le Maharal a tout un chapitre d'ailleurs là-dessus. J'ajoute ceci pour renforcer votre question. C'est, on ne peut pas ne pas voir que les juifs du retour de notre temps étaient les juifs les plus assimilés. Ils avaient la figure de ce Joseph, dont on pouvait dire qu'il était tellement assimilé que Judas lui a dit qu'il kamocha ke paro. Il n'y a plus de différence entre toi et le pharaon. Bon, ils n'étaient pas seuls, les assimilés, au moment du retour. Mais le mouvement, c'est eux qui l'ont conduit. Le retour a été déclenché par des très grands rabbins d'Europe. C'était, je vous donne en filigrane, l'enseignement du Gaon de Vilna, le Rav Kalischer chez les Ashkenazim, le Rav Al-Kalai chez les Sfaradim. D'ailleurs, le grand-père de Herzl était un fidèle de la communauté sfarade du Rav Al-Kalai. Okay? Mais c'est le sionisme laïque, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, qui a réalisé le retour de Joseph. On revoit ce parallèle. Imaginez les Hébreux du ghetto de Goshen. Il faut que je vous cite un verset tout à l'heure, rappelez-moi. La première rencontre entre Moïse et Aaron. On va faire un petit peu de phénoménologie sioniste. Les Hébreux du côté de Goshen, voyant Moïse arriver dans le camp de Goshen et leur dire, allez, l'État juif. Ils auraient eu exactement la même réaction que les Rachei Yeshiva du temps de Herzl. Ils ont dit, mais tu es un assimilé. Et tu nous dis à nous, c'est le temps du retour, la promesse des ancêtres. Va dire Kaddish. Vous voyez à peu près le problème. Alors qu'il faut absolument que je vous lise ce verset. Comment se fait la première fois la rencontre entre Moïse et Aaron? Moïse et Aaron sont frères. Mais Aaron est le chef du ghetto à Goshen et Moïse est le fils adoptif du pharaon au palais de l'Élysée pharaonique, si j'ose dire. Ils ne se sont jamais vus. Qu'en irait. Alors voilà comment Dieu annonce à Moïse la rencontre avec Jethro, c'est dans Shemot. Et une minute que je trouve le verset. Vous allez noter cette référence à partir du verset 13 du chapitre 4 de l'Exode. Lorsque Moïse, c'est toute la scène où Moïse résiste à sa vocation et il supplie Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre que lui. On pourrait déjà faire ce raisonnement. Je vais sûrement échouer. Ils ne vont pas me reconnaître. Ils ne vont pas accepter. Cherche quelqu'un d'autre. Dieu s'entête. Il dit c'est toi. Donc il y a une logique à cette dialectique Joseph-Moïse. Okay. Et alors, Moïse dit, verset 13 du chapitre 4, « Vayomer bi'adoni, de grâce, shelachna bi'ad tishlach, envoie par qui tu enverras, c'est-à-dire pas par moi. » Je fais un raisonnement bref. Peut-être que si c'est Aaron qui déclenche le retour, ils vont l'écouter, passer leur rabbin. Mais moi, Moïse, ils vont me dire tu es un étranger. Est-ce que c'est clair? Donc, assimilé, je veux dire. Verset 14. Vayhara fachem be Moshe. Dieu, la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Vayomer. Et il lui dit Halo Aaron Ahicha Lévi. N'est-ce pas que Aaron, ton frère le Lévi, il y a Darti qui d'aver et d'aver où? Je sais qui s'est parlé. Il faisait des sermons, lui. Je sais qui s'est parlé. Vegam inehu yotzelik ratzecha. Et voici qu'il vient à ta rencontre. Veraacha, il te verra. Vesamah belibo. Et il se réjouira en son cœur. J'essaie de vous décrire la scène. Aaron est donc le chef du ghetto. Moïse, c'est le leader politique qui va déclarer c'est le temps du retour. Qu'est-ce que dit la Torah? Aaron se prépare à te rencontrer et dès qu'il te verra, il se réjouira. Alors imaginez, à l'époque de l'émergence du mouvement sioniste politique, le Rosh Yeshiva sortant à la rencontre de Herzl et regardant Herzl se réjouissant en son cœur. Voilà, c'est dans la Torah. Bon, ça peut d'ailleurs, à une échelle même plus petite, être imaginé entre un Rosh Yeshiva contemporain en France et le chaliar de l'agent juif correspondant. C'est une scène extraordinaire qu'il nous a racontée là. Voilà, vous voyez, Moïse apparaît comme le plus assimilé des assimilés. Mais Aaron sait que c'est son frère. Déjà, cette scène, on l'avait d'une certaine manière à la rencontre de Joseph et de ses frères. La Torah nous dit, c'est clair, Joseph les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à la fin, on dit Yosef HaTzadik. Vous voyez, ces choses que nous vivons qui ne sont pas saines. Donc, alors je reprends. Abraham ou Abraham? Abraham, c'est lui Abraham. Baltechila Naasa Avle Aram. Au début, il a été principe d'identité de Aram. C'était donc quoi? Et j'espère qu'on est arrivé à l'élucider. L'identité hébraïque originelle qui était devenue clandestine dans l'identité araméenne. Clandestine et d'une spécificité telle, trop spécifique, elle ne pouvait plus jouer son rôle de l'universel. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors je vais aller un peu lentement parce que les correspondances de l'expérience contemporaine sont telles que je ne voudrais pas trop entrer dans le détail, mais suffisamment cependant. C'est-à-dire que l'araméen, l'hébreu à Babel, finit par ressembler à un chaldéen. Jusqu'au point où Terach, le père d'Abraham, qui aurait dû être le porteur de Torah pour cette civilisation, était fabricant d'idoles. Vous voyez jusqu'où ça va, Ken? C'est-à-dire qu'il y a une spécificité telle que c'est comme si cette société hébraïque est une parmi les nations, alors qu'elle était une à l'indice de l'universel humain en tant qu'hébreu. Alors, toute analogie réservée, c'est un peu le cas des juiveries, des identités juives de l'exil, qui sont trop spécifiques pour pouvoir véritablement être reconnues comme à l'échelle universelle, bien que c'est l'identité hébraïque qui veille sous la cendre, et ça se perçoit. Et je le dirais peut-être sous forme un peu poétique, je ne sais pas, pour faire passer la pilule, c'est que l'humanité entière a refusé la Torah des Juifs, elle commence à l'accepter qu'au temps d'Israël. Vous avez remarqué ça? Okay. Ça éclate, c'est frappant. Okay. Cette réhabilitation d'Israël à l'indice de l'universel, c'est à partir du temps israélien. Et réhabilitation de l'hébreu y compris en tant que langue. Voilà, je crois qu'il faut percevoir cela. C'est ce phénomène que nous vivons d'une certaine manière. Toutes les analyses de typologie sont toujours très délicates. C'est une science pour elle-même. Nous avons des bibliothèques entières de cette science-là, dont je rappelle le principe que j'ai cité sans doute lundi soir à la conférence générale. Kolma sheira la avot siman labanim. Tout ce qui est arrivé au père est un signe pour les fils. Mais pour établir ce diagnostic de correspondance, c'est une science. Un des grands maîtres de cette science était le Schlag, que je cite souvent, mais c'est toute une lignée. Et dont les principaux points, Kuzari, le Maharal, le Pirkei Tzadik, qu'on a souvent cité hier soir, c'est une science qui va à travers les analyses du Talmud, du Midrash, du Zohar, et pour identifier les paysages humains. Bon, j'espère en avoir dit succinctement suffisamment pour qu'on se rende compte que cette mutation d'identité Abraham-Abraham, c'est l'araméen de redevenant hébreu. Eh bien, ça prend 3 générations dans l'effort des engendrements de l'histoire des patriarches, dans cette sélection d'identité dont je vous ai décrit le schéma, et qui s'accompagne de ces rivaux qui nous entourent. Et dans la même problématique. Par exemple, Ishmaël réclame la terre. Allez voir ce qui se passe entre Ishmaël et Isaac dans le récit biblique. Qu'est-ce qu'il y avait entre les deux? La terre. Ésaü réclame le ciel. Allez voir ce qui se passe entre Ésaü et Jacob. La chrétienté réclame le ciel. Ce qui se passe entre Ésaü et Jacob dans le récit biblique. Et puis, qui c'est Lot? Qui c'est Nimrod? Qui c'est Abimelech? Qui c'est Laban? Et qui c'est Amalek? Pour reprendre ce schéma général. Mais ce qu'il faut découvrir, c'est la précision de l'enseignement de nos maîtres à ce sujet à travers des millénaires. Pour nous dire, en d'autres termes, quand ça arrivera, c'est comme ça que ça arrive. Or, c'est comme ça que ça arrive. Voilà, c'est clair. Donc, vous allez me dire encore, mais qu'est-ce qu'on fait encore ici? Bon, mais, comme disait Abraham Terah, « Hachmar leoznecha, machata mutse mipir. » Je reviens au problème. On est à la deuxième ligne, Ulbasov, et en fin de compte, Naasa av lechol haolam kulo, il a été fait père du monde entier. Vous voyez, c'est le passage à l'universel. Alors pour reprendre cette analogie, Abraham vit le passage de l'identité spécifique de son identité d'exil, hébreu en exil dans la civilisation chaldéenne, mésopotamienne, Babel, au passage de l'identité hébraïque à l'échelle universelle. Et dès que ça commence, ça se perçoit dans l'environnement culturel. Il faut relire le texte de la Bible. Alors on continue. Sarai, hi, Sarah. C'est la suite du verset dans les chroniques. Sarai, c'est elle, Sarah. Batrila na'asit Sarai leumata. Au début, elle a été faite ma princesse pour sa nation, son peuple. Vous voyez, particularisme. Et à la fin, elle a été faite la princesse pour le monde entier. Ici, il y a un épisode que j'aimerais bien pouvoir analyser en détail avec vous. Je ne sais pas si nous l'avons fait à un séminaire précédent, peut-être on le fera lundi ou mardi. C'est que ce changement de nom de Sarai en Sarah s'accompagne, c'est le premier épisode, de cet épisode de l'histoire des patriarches, où le patriarche dit de sa femme qu'elle est sa sœur. Et nous l'avons étudié? Très bien. C'est parallèle. Et c'est très périlleux. À partir du moment où, je vais prendre comme comparaison Israël et sa Torah, à partir du moment où la Torah d'Israël est proposée à l'indice de l'universel, Israël est en danger. C'est la même histoire. Lorsque Abraham et Sarah arrivent à la frontière de l'Égypte. Abraham a 100 ans, Sarah a 99 ans. Vous ne croyez pas que c'est une histoire de crainte de vaudeville. Et le verset est très clair. À ce moment-là, Abraham dit à Sarah, je vois que tu es belle. Et il n'a pas vu avant. Okay. Alors de quelle beauté s'agissait-il? Et il dit, méfie-toi, dis que tu es ma sœur. Mais il n'y a pas seulement que méfie-toi. Mais je vais d'abord arriver là, c'est une blague que je n'hésite pas à vous citer, les douanes égyptiennes. Alors le douanier égyptien demande à Abraham, vous avez quelque chose à déclarer? Et Abraham dit, oui, j'ai une déclaration à faire, ma femme c'est ma sœur. Ils ont rien compris. Ah, c'est ta sœur, elle est disponible, on se la prend. Vous avez compris la suite. C'est-à-dire, il y a un message qui devait être porté, l'épouse c'est la sœur. Et puis voilà, qu'on ne comprend rien du tout. Ah bon, elle est que ta sœur? On peut la porter chez le pharaon, okay, d'Afka juste chez le pharaon.